premier service de transfert d'argent et de paiement mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Dans un instant, la libre antenne, vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. Mais comme promis, Laurence Théo est restée dans ce studio. Bonjour Laurence.
Rebonjour.
Et Ludovic est toujours en ligne de Ouagadougou. Ludovic ?
Oui, depuis Ouagadougou, je suis toujours en ligne.
Parfait, ne raccrochez surtout pas, on va continuer à répondre à vos questions, des questions suite à la décision du Parlement français de reconnaître les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Vous nous expliquiez tout à l'heure, Laurence Théo, qu'il s'agissait d'une reconnaissance symbolique et qu'avant cette loi, il existait en France un arsenal juridique. Hein.
Oui, en fait, il faut préciser que le code rural et le code pénal avaient déjà intégré cette définition de l'animal, mais ça n'était pas dans le code... civil. Alors, l'arsenal juridique existe. Le code pénal prévoit une peine maximale de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour les auteurs d'actes de cruauté contre un animal domestique ou apprivoisé. J'en profite pour dire à Ludovic que les animaux sauvages ne sont pas concernés par
d'accord.
ce statut.
Mmh.
Seulement, il est rarement appliqué, même si récemment, Juan, il y a eu une exception à la règle. On se souvient de ce jeune Marseillais qui avait lancé un chat contre un mur.
Ah oui.
Il a écopé d'un an de...
Le tout filmé. Et diffusé sur les réseaux sociaux.
Hein. Exactement. Il a donc écopé d'un an de prison ferme. C'est une mesure très importante. Mais c'est l'exception. Il y a une prise de conscience. Ouais. On s'aperçoit qu'il y a une prise de conscience.
Mais est-ce
en
que ce changement de statut de l'animal en France va mettre un frein aux élevages intensifs? Je pense évidemment à l'élevage des poules, des porcs, des veaux. Est-ce qu'il va y avoir un changement?
Non, ce texte en lui-même ne met fin à rien. Mais encore une fois, Juan et Ludovic, ils donnent du poids aux revendications en faveur d'une amélioration de la condition faite aux animaux. Pour comprendre que ce changement de statut de l'animal ne va pas tout révolutionner, il faut peut-être revenir sur les termes contenus dans la loi. Les animaux ne sont plus des biens meubles, mais attention, ils restent soumis au régime des biens corporels. Ce sont des biens vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils peuvent rester la propriété des éleveurs. Alors, quand on sait que l'élevage intensif industriel a pour objectif de produire le plus possible, le plus rapidement possible, à un moindre coût, on peut aisément comprendre que le bien-être des animaux n'est pas au centre des préoccupations. Vous lisez, Juan, on pense aux poules élevées en batterie dans nos pays riches, qui ne peuvent pas ouvrir les ailes, qui ne verront jamais un brin d'herbe, ni la lumière du jour, qui se piétinent, qui s'entretuent. J'ai vu l'autre jour à la télévision un document sur le sexage des poussins. Les poussins mâles qui ne sont pas intéressants pour la ponte, bien tout simplement, ils sont hachés menus dans un broyeur. La ferme des 1000 vaches fait beaucoup parler d'elle en France. Mmh. Une ferme aux dimensions inhumaines. La ferme est équivalente, Ludovic, écoutez bien, à 3 terrains de football. C'est une exploitation géante, ça pose des problèmes.
Ouais. Ludovic, vous aviez une autre question?
Oui, avant de répondre, de poser ma deuxième question, je dirais que mes frères Bissa et Samon sont rassurés par ces réponses données. Ma question est suivante, est de savoir pourquoi le Sénat s'était opposé au vote de cette loi au début.
Ah, c'est vrai qu'il y a eu un bras de fer entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Le Sénat avait même refusé de changer le statut des animaux.
Tout à fait. Alors, on va comprendre très vite pourquoi. Donc, les projets de loi sont discutés à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Il faut rappeler que les Sénats représentent davantage les collectivités territoriales et le monde rural. Donc, quand on pense au monde rural, on pense bien sûr à l'élevage et à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Le Sénat s'est opposé à cette réforme parce que la filière agricole craignait une remise en cause de la pratique de l'élevage. Hein, si l'animal est un être sensible, on va remettre en cause les conditions d'élevage. Le syndicat agricole FNSEA a fait part de ses inquiétudes. Et si le syndicat agricole a finalement accepté l'évolution de ce statut des animaux, c'est que l'animal ne bénéficie pas d'une catégorie intermédiaire entre celle des hommes et celle des biens. Hein, dans le code civil, il y a les personnes et les biens, et ceux qui défendaient les animaux voulaient une troisième catégorie.
D'accord.
C'est-à-dire les animaux. Ça a été refusé. C'est pour ça que l'évolution, finalement, a été acceptée par le Sénat.
Merci beaucoup, Laurence Théo. Bonne journée, Ludovic.
La prochaine fois, je viendrai avec mon chat.
La prochaine fois, Laurence Théo viendra avec son chat, nous dit-elle. Bon, ben voilà, c'est une chose à savoir. À bientôt, Laurence. Merci de votre bonne humeur, en tout cas. 9h44 à Paris, la Libre Antenne. On a un bon quart d'heure maintenant pour commenter l'actualité de votre choix. Vous êtes nombreux à revenir sur les incidents hier, lors de la demi-finale. Sénégal, Ghana, Guinée équatoriale. Bonjour Adama.
Bonjour Juan.
Vous condamnez les violences d'hier soir. Vous êtes à Bamako, vous condamnez ces violences.
Oui, Juan. Vraiment, je condamne les incidents qui sont intervenus hier soir au match, à la fin du match. Bon, certes, je les condamne, mais je les approuve pas du tout. Mais je comprends réellement la réaction des supporters équatoriens qui avaient l'impression d'être un peu diabolisés après le match contre la Tunisie.
Vous faites référence au pénalty imaginaire accordé par l'arbitre à la Guinée équatoriale.
Donc après cette erreur d'arbitrage, je crois que les gens on ne voyait plus le mérite de la Guinée équatoriale. C'était comme si la Guinée équatoriale avait triché pour gagner. Alors que j'ai dit que ce n'était qu'une erreur d'arbitrage.
Oui, mais bien sûr, c'était une erreur d'arbitrage et les supporters équato-guinéens n'avaient rien à voir avec cette erreur d'arbitrage. Mais même si vous dites, Adama, on peut comprendre, c'est vrai que depuis 48 heures, les équato-guinéens sont dans le collimateur de tous les supporters et de tous les amoureux du football, on va dire, après effectivement cette erreur d'arbitrage contre la Tunisie. Puis auparavant, il y avait une erreur d'arbitrage également en faveur de la Guinée équatoriale contre le Gabon, mais ça ne justifie en rien les violences d'hier. Ça ne justifie pas la volonté de jeter des bouteilles en plastique, des canettes de boissons sur les joueurs, sur l'arbitre.
Non, pas du tout. Mais je me dis également que la gestion de la CAF, quand même, ça aussi, ça a un peu laissé à désirer, parce que la sanction prise contre l'arbitre, je trouve que ça a été un peu excessif. Une erreur d'arbitrage, c'est vrai, mais on a vu la main de Thierry Henry qui a envoyé la France à la Coupe du Monde, mais l'arbitre n'a pas été rétrogradé et banni totalement.
D'accord. Vous trouvez que la Confédération africaine de football a été trop sévère avec l'arbitre du match donc Guinée équatoriale Tunisie. Aliba, vous nous appelez de Luanda, vous êtes en Angola. Bonjour Aliba.
Bonjour, monsieur Wan. Bonjour à la radio RFI.
Alors, j'ai sous les yeux le courrier électronique que vous avez envoyé. Vous dites ce qui s'est passé hier soir à Malabo, c'est de la pure sauvagerie.
Sérieusement, moi, je qualifie ça de la sauvagerie. Quand j'écoute Adama de Bamako, je pense bien qu'il est dépassé de l'actualité. Sinon, la nervosité de ses supporters ne nécessite pas la violence sur les autres supporters. Sachant que le match de la Tunisie, Guinée équatoriale, visiblement, on sait que vraiment la Guinée a passé par la tricherie. Donc ce n'est pas une sanction qu'on a adoptée sur l'arbitre qu'on peut mettre maintenant sur le supporter ghanéen. Qu'est-ce que les joueurs ghanéens ont fait pour gagner? Ils ont joué. Il n'y a pas eu de tricherie. Pour qu'il y ait de la violence, il faudrait que cela cesse. Moi, je condamne la CAF, parce que la CAF n'applique pas les sanctions comme il le faut. Bon. Si c'est moi aujourd'hui qui appliquais ces sanctions, j'allais disqualifier complètement la Guinée équatoriale de la troisième place. Donc on fait passer automatiquement la RTC.
D'accord, donc vous diriez pas de petite finale. La République démocratique du Congo, troisième au classement d'office, sans demi-finale. Bon, enfin, voilà, c'est le sport, il faut laisser jouer les équipes jusqu'au bout. La petite finale, ce sera à vivre évidemment demain sur l'antenne d'RFI, hein, demain après-midi 16h temps universel, et la finale Ghana-Côte d'Ivoire à 19h temps universel également sur l'antenne d'RFI. Et lundi évidemment on dressera tous ensemble un bilan de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Boubacar, vous êtes à Ouagadougou, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour.
Alors le Burkina Faso a connu cette semaine sa première crise, hein, depuis la chute de Blaise Compaoré, puisque la garde présidentielle, qui est le corps d'élite de l'armée au Burkina Faso, a réclamé la démission du Premier ministre.
Oui, Juan, je voudrais que d'entrée de jeu, qu'on se comprenne très bien. Les militaires du RSP, ils sont des Burkinabés comme les autres, par conséquent, ils ont des causes à défendre et ils ont sans doute des respects à préserver. S'ils ont des droits, ils ont également des devoirs et cela est valable pour toute l'armée. Ceci dit, je condamne sans la moindre réserve les actions répétées de ces militaires-là. Ce n'est pas la première fois parce qu'il y a eu une action comme ça en fin d'année. Donc, les actions reprises des militaires, je les condamne. Il s'agit bel et bien d'une mutinerie. Je crois que quand on parle du régime de sécurité présidentielle, il faut se rappeler une chose. Ce sont eux qui ont tué David Ouédraogo, le chauffeur de François Compaoré, le frère de Blaise Compaoré, les militaires du RSP. Ouais. Ce sont eux qui ont été très sérieusement suspectés dans l'affaire Norbert Zongo.
C'est vrai qu'ils sont pointés du doigt par un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme. C'était, faut le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas le Burkina Faso, la garde présidentielle, c'était l'un des piliers du régime Compaoré. En tout cas, Boubacar, si la garde présidentielle est montée au créneau, si vous me permettez l'expression, c'est que le Premier ministre, lui, voulait clairement dissoudre ce corps d'élite. Du coup, les soldats du régiment de sécurité présidentielle ont eu peur pour leur avenir, et ils ont donc fait pression. Tout est rentré dans l'ordre, puisque finalement, le Premier ministre s'est engagé à ne plus dissoudre ce corps d'élite. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ou pas?
Bon, je ne sais pas s'il faut parler de compromis ou de compromission, ou même de deal, mais parce qu'ils ont des privilèges, cette armée-là, pendant des années, parce qu'ils ont des armes redoutables pour nous effrayer, parce qu'ils sont plus forts. Donc, ils veulent faire peur au peuple, et ils veulent prendre le processus en otage. Je crois que ce n'est pas cela qu'il faut. En réalité, moi, je ne voudrais pas jouer sur le mot. Il s'agit de démantèlement pur et simple de cette entité-là.
Donc
il faut la démanteler et la dissoudre.
Voilà, il faut une dissolution, dissoudre complètement ce corps d'élite. Bon, on va voir ce qu'en pense Aboubacar. Tiens, Aboubacar nous appelle de Montréal. Bonjour.
Oui, Juan, bonjour.
On vous écoute. Est-ce que vous partagez le point de vue de votre compatriote au Burkina Faso?
Je partage effectivement le point de vue de mon compatriote. Moi, je vais un peu plus loin pour dire qu'il faut que le gouvernement dans son ensemble et le président de la transition aujourd'hui qui nous a enseigné que plus rien ne doit être comme avant, doit prendre ses responsabilités pour prendre des mesures fortes et vigoureuses. Ces mesures fortes et vigoureuses, j'entends premièrement la dissolution pure et simple du régime de sécurité présidentielle, qui n'est qu'une composante de l'armée à côté des autres composantes. Et la deuxième mesure, c'est de conduire Gilbert Nguéré, l'ex-chef d'état-major particulier de la présidence, à la retraite anticipée. Parce que je pense, à mon humble avis, que c'est lui qui tire les ficelles à côté donc de ces jeunes militaires.
Ouais. Mais en même temps, quelle leçon, excusez-moi, Aboubacar à Montréal, quelle leçon faut-il tirer justement de ce bras de fer tout au long de la semaine? Est-ce que ça illustre d'une certaine façon la fragilité quand même des autorités de transition au Burkina?
Absolument, ça illustre la fragilité des autorités de la transition. Et l'actualité avec ce compromis entre griffes, moi j'appelle ça une compromission, qui vise à accéder justement aux revendications de cette composante des militaires, donc qui doivent faire et défaire.
On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine, d'autant qu'il y a une manifestation qui est prévue demain, donc on suivra ça de près et on en parlera demain, enfin pas demain, demain c'est samedi, mais on en parlera dans le courant de la semaine prochaine, c'est promis, on organisera un débat, c'est un sujet qui fait réagir, je le vois là sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Merci à vous Boubacar, bonne fin de nuit à Montréal. Georges, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Athènes, vous nous avez envoyé un courrier électronique cette semaine et vous fustigez les réactions, je cite, très négatives de l'Union européenne à l'égard de Syriza. Vous ne comprenez pas que Syriza soit diabolisé.
Tout à fait, parce que justement, monsieur Gomez, il n'y a même pas deux semaines que le peuple grec a exercé son droit souverain et démocratique en votant contre la politique de l'austérité imposée au pays par la Troïka, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission. Et cette intransigeance inflexible de la part de ses partenaires en Europe face à un gouvernement démocratiquement élu et démolit son programme, et en diabolisant un programme, c'est justement le droit souverain du peuple qu'il a voté qu'on met à cause. Moi, je n'ai pas voté pour Syriza, si vous me permettez de dire, M. Gomez.
Ben vous
mais
pouvez
je
le dire.
Ne suis pas prêt à renoncer à mon droit de voter pour une politique qui met mal à l'aise les partisans de l'austérité en Europe, ni d'être montré du doigt à cause de mes choix.
Oui, donc vous avez un peu l'impression aujourd'hui en tant que citoyen grec, Georges, d'être considéré comme un Européen de seconde zone, finalement.
Absolument. Je me sens plutôt comme un citoyen dont les droits sont à condition. Je suis Et je suis permis de voter, mais à condition que ça respecte les engagements d'un gouvernement qui vient d'être rejeté par mon voix.
Et en même temps, la Grèce, vous parlez d'engagement, mais votre pays a pris des engagements à l'égard de l'Union européenne, des engagements qui lui ont permis de recevoir plusieurs milliards d'euros ces dernières années pour faire face au manque de liquidité dans les caisses de l'État grec. La Grèce se doit forcément de respecter ses engagements, même si le gouvernement a changé, non ?
Oui, mais personne n'a demandé de prendre des décisions unilatérales. On a demandé de renégocier la dette et renégocier un programme qui, visiblement, a échoué ici en Grèce.
D'accord.
Et puis, mais de l'autre côté, être montré du doigt, ça crée un sentiment de paria, si vous voulez.
Merci Georges d'écouter RFI sur Internet à Athènes et merci de nous avoir appelé, enfin de nous avoir contacté par courrier électronique. Notre adresse appel@actu.rfi.fr. Mamadou nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Mamadou.
Oui, bonjour monsieur Gomez.
Oula, alors attendez, votre voix se robotise. On va faire une petite tentative. On me dit que c'est bon. Vous êtes à N'Djamena et vous réagissez, vous, à l'intervention de votre armée nationale, de l'armée tchadienne, dans la lutte contre Boko Haram. Vous saluez d'ailleurs l'initiative du président Idriss Déby et le feu vert de l'Assemblée nationale tchadienne pour envoyer des troupes au Cameroun et au Nigeria. Allô. Eh ben ça ne marche pas. Je le pensais, je m'en doutais. Alors, Fernand est avec nous, on va parler d'un tout autre sujet. Bonjour Fernand.
Bonjour Juan.
Bonjour, vous êtes à Kinshasa.
Bonjour. Oui, j'appelle de Kinshasa. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la meilleure du monde.
Alors, merci. Vous avez, un commentaire sur l'annonce de l'armée congolaise. Elle veut traquer les rebelles Hutus rwandais qui sont disséminés dans l'est de la République démocratique du Congo depuis maintenant 20 ans. Et là aussi, vous dites que c'est une bonne initiative de la part des autorités congolaises que d'essayer enfin d'anéantir cette rébellion.
Oui, Juan, je salue la décision de l'armée congolaise car les FDLR ne doivent pas continuer à rester sur le territoire congolais jusqu'à X temps. Mais je fustige cette décision au moins sur l'armée qui doit y aller seule parce que vous savez très bien que notre armée est une armée en gestation. Ainsi que nous avons souhaité parce que l'armée puisse intervenir accompagnée de la MONUSCO.
Oui, ce qu'il faut préciser aux auditeurs, Fernand, c'est que l'armée congolaise souhaite mener cette opération seule, sans l'intervention de la MONUSCO, sans l'intervention des casques bleus qui sont présents sur le terrain depuis un certain nombre d'années. Et pour vous, c'est une erreur. Il faut absolument associer les casques bleus.
Pour moi, c'est une erreur. Il faut absolument associer les casques bleus. Parce que si l'armée y va seule, cette intervention risque de nous prendre trop de temps, alors que vous savez que nous avons des élections à organiser au courant de cette année. Et ça sera vraiment donc la deuxième partie de mon commentaire pour dire que si l'armée congolaise y va seule, donc ça sera une raison pour le pouvoir en place de faire traîner les choses en longueur et ne pas organiser les élections.
Ah.
Voilà au moins comment est-ce que nous...
C'est comme ça que vous percevez la chose, c'est-à-dire que si la traque contre les FDLR, la guerre contre les FDLR s'éternise, vous craignez que ces événements soient un prétexte pour retarder l'élection présidentielle qui est prévue d'ailleurs l'année prochaine en République démocratique du Congo. Merci à tous de votre fidélité. Merci Fernand et désolé pour tous ceux qui étaient déjà prêts à intervenir, qui étaient au standard mais qu'on n'a pas pu passer à l'antenne. Ne vous inquiétez pas, on vous rappellera évidemment la semaine prochaine, lundi. Nous dresserons tous ensemble un bilan de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On sera au lendemain de la finale Ghana-Côte d'Ivoire. Quel pays soulèvera le trophée cette année? Claire Edon me regarde, elle n'en a aucune idée, mais en tout cas on en reparlera ensemble.
Moi, je sais à peu près qui est en finale, c'est pas mal.
Ghana-Côte d'Ivoire. Claire, plus sérieusement, on vous retrouve dans 10 minutes, priorité santé.